Alors, je vais vous raconter une histoire. J'écoutais le disque jockey dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la route de Memphis. Ça, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, pour ceux qui s'en souviennent. On va parler de la route d'Emmaüs. Sur la route d'Emmaüs. Je vous invite à vous tourner dans Luc 24, chapitre 13, 24, versets 13 à 35. Alors, Luc, c'est page 1186 dans la Bible Second 21 que vous avez emprunté, si vous avez emprunté une Bible. On vous invite bien sûr à avoir votre propre Bible. Et on va... Luc 24, 13 à 35. C'est un de mes passages de l'écriture favoris. C'est une bonne histoire pour l'école du dimanche. Et en fait, il y a plein de leçons à en retenir pour nos vies, pour nous-mêmes. La résurrection vient d'avoir lieu. Certains autres passages la décrivent plus en détail. Ici, dans le chapitre 24, Luc nous raconte que le dimanche matin, les femmes se sont réunies pour aller embaumer le corps avec des aromates qu'elles avaient préparés. Mais en faisant la découverte que la pierre qui bloquait le tombeau a été roulée et qu'on peut rentrer, maintenant elles s'aperçoivent que le corps du Seigneur Jésus n'est plus là. Et elles voient deux anges qui leur disent « Ne cherchez pas, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il a dit, etc. Il leur dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Puis elles retournent retrouver les 11 disciples. Et elle leur déclare, voilà, on a eu quelqu'un qui nous a parlé, le tombeau était vide, la pierre était roulée, et il est dit, verset 11 du chapitre 24, « Mais il prit leur discours pour des absurdités. » Il se comporte en vrai macho, il se dit, « Qu'est-ce qu'elles nous racontent ces femmes? Ça va pas, c'est pas possible. » Et ils ne crurent pas ces femmes. Il y a quand même Pierre qui se lève et qui courut au tombeau. Il se baissa et vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Il était étonné, mais il n'avait pas encore vraiment compris les choses. Et puis, on célèbre typiquement Pâques, le matin de Pâques, mais il y a une partie de la journée, ou de cette journée plutôt, qui est très importante. C'est ce que j'appelle des fois l'après-midi de Pâques, ou bien cheminons sur la route d'Emmaüs. Emmaüs, c'était un petit village qui était seulement à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. On peut commencer à lire. Ce même jour, je lis à partir du verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous ? » il leur dit de quoi parlez-vous en marchant? Pourquoi? Pour avoir l'air si triste. L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Posons ici ces deux disciples. Donc, un s'appelait Cléopas. On n'est pas sûr de la personne, de qui était l'autre. Dans Jean 19, il est question de Marie, sœur de la mère de Jésus. À l'époque, tout le monde s'appelait Marie. Il fallait préciser. Donc, c'était Marie, la sœur de Marie, la mère de Dieu, de Jésus. Et cette femme était mariée à un dénommé Clopas. Et il y en a qui pensent que peut-être c'était l'oncle et la tante de Jésus qui était là. Peu importe, c'est pas vraiment précisé. C'était des disciples. Ils faisaient pas partie du groupe resserré des 12 ou 11 apôtres, mais ils avaient eu l'occasion de voir Jésus. Il y avait une prophétie aussi dans Ésaïe 50 qui disait que on allait arracher la barbe de Jésus. J'ai jamais vraiment porté la barbe, mais ça ne doit pas faire du bien. Pour ceux qui ont une barbe, vous savez qu'on peut enlever un poil, mais enlever toute la barbe. Et c'est peut-être pour ça qu'il avait changé d'aspect, on ne le reconnaissait pas. On dit aussi que Emmaüs est au nord-ouest de Jérusalem, à l'ouest donc de Jérusalem, et qu'à cette heure-là, le soleil se couchait, et donc peut-être qu'ils étaient un peu éblouis, ils ne voyaient pas bien. Il y avait l'obscurité qui commençait. Toujours est-il qu'ils ne le reconnaissent pas. Et ce qui est frappant, c'est de réaliser leur confusion, leur dépression. Ils sont en train d'entrer en dépression. Jésus, qui ne s'est pas fait connaître encore, leur dit « De quoi vous parlez ?» Vous avez l'air tellement triste. Et puis quand ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits et il est mort. Donc ils étaient désespérés, ils étaient tristes, ils étaient dans la dépression. Leurs attentes ne s'étaient pas réalisées. Leurs projets n'avaient pas pris forme. Et c'est intéressant parce que la résurrection avait déjà eu lieu. Ils auraient eu toutes les raisons de sauter de joie, d'être plein d'optimisme, de parler à tout le monde de la résurrection. Alors vous me dites, ils ne l'avaient pas vu, c'est vrai, mais ils avaient entendu parler de ces récits, de ces rapports. Et en fait, leur problème, et c'est souvent le nôtre aujourd'hui, est-ce que la résurrection a eu lieu ? Oui ou non ? Il est vraiment ressuscité. La résurrection a eu lieu. Est-ce que nous, on vit toujours dans la réalité de la résurrection ? Quand on a des problèmes dans la vie, des problèmes de santé, quand on a des deuils, quand on a des revers de fortune, des maladies, des mauvaises nouvelles, Jésus est toujours ressuscité. Mais peut-être qu'on est déprimé, on s'abandonne au désespoir. Et sans doute que si on les avait pressés en disant « Mais si le tombeau est vide, peut-être que ça veut dire qu'il est ressuscité ?» J'imagine qu'ils auraient répondu « Non, on a dû voler le corps. » Quand on est déprimé, et ça peut être une maladie, c'est sérieux, on ne veut rien entendre de bon. Si on nous dit « Oui, mais... tu as ça, ou le docteur t'a dit que dans 2 semaines, ça devrait être terminé. » Mais si on est dans la dépression, on ne veut rien entendre. Laissez-moi tranquille dans ma dépression, dans ma tristesse, dans mon désespoir. En fait, tout ce qu'ils avaient pour vivre cette réalité, c'était le rapport d'autrui. On leur avait dit que Jésus était plus dans le tombeau était vide, et les femmes, mais est-ce qu'on peut croire des femmes ? Elles racontent, elles se montrent le ciboulot là. Des femmes avaient vu des anges qui avaient dit « Ne cherchez pas Jésus, pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. » Aujourd'hui, si vous avez donné votre foi à Dieu, fait confiance à Dieu, c'est sous la base de rapports qu'on vous a fait. J'ai pas vu personnellement Jésus-Christ avec les mains meurtries, les trous dans les mains, me disant « Bonjour Pierre, je suis vivant, je suis ressuscité. » Mais j'ai lu la parole qui est la vérité. J'ai réfléchi, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Et j'ai conclu, logiquement, quand on regarde les événements qui se sont produits à Pâques, que oui, la résurrection est un fait avéré. Et que ça change tout dans ma vie et dans la vôtre. Vous pouvez toujours refuser d'y croire ou dire « j'y crois », mais que ce soit quelque chose d'intellectuel, mais laissez-moi tranquille, je suis dans mon désespoir. Fichez-moi la paix. Je ne veux pas entendre de bonnes nouvelles. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Nous aussi, donc, on a le choix d'écouter la parole de Dieu, de faire confiance à ce qui nous est dit. En parlant de la force, de la logique intellectuelle qui prouve que la résurrection a bien lieu. Je peux citer quelques éléments ici, mais je vous invite à aller voir le film « Jésus l'enquête » qui raconte l'histoire du journaliste de Chicago, le journaliste américain Lee Strobel, qui a voulu montrer à son épouse, qui était devenue chrétienne, que la foi chrétienne ne tenait pas la route. Et en fait, en s'attaquant à cet projet, il est tombé lui-même à genoux, il est devenu chrétien, c'est aujourd'hui un pasteur, un écrivain. La logique de votre intelligence ne doit pas être mise entre parenthèses. Vous pouvez donner votre assentiment intellectuel, logique et votre cœur à la vérité de la résurrection. Pour ceux qui seraient intéressés par le film, je suis reconnaissant. Il devait avoir une seule projection il y a 3 semaines. devant le nombre de personnes qui sont allées, beaucoup d'entre vous, de chrétiens, il continue de le montrer. Alors il le montre encore aujourd'hui, demain et le 3 avril à 14h15 et 16h50. Et puis le reste de la semaine, ce sera seulement à 14h15. Si vous n'avez jamais vu ce film ou lu le livre, je vous invite à aller le voir. C'est très convaincant, c'est logique, c'est solide. Ce n'est pas des histoires de mythes et de légendes, c'est des faits historiques et c'est mené de façon très convaincante et intelligente. Nous aussi, on peut être confus. On peut vivre dans les difficultés et avoir notre foi qui est battue en brèche. Oui, la résurrection a eu lieu, mais est-ce que Dieu s'occupe vraiment de tout le monde ? Il y a combien de milliards d'hommes sur la planète ? S'il me donne 10 milliardième de son temps, bien sûr, il ne peut pas s'occuper de moi beaucoup. Mais ça, c'est rester dans la confusion, de ne pas vivre dans la réalité de la résurrection de Jésus. Alors, est-ce que ils expliquent à Jésus, en fait, sans l'avoir reconnu, qu'ils sont déprimés, qu'il y a bien eu des rapports, mais qu'ils sont complètement confus. Ils ne voient pas pourquoi celui qui devait délivrer Israël a été capturé, mis à mort, mis au tombeau, il est mort. Et Jésus, je disais ce matin, il ne leur dit pas, « Oh, c'est très bien, c'est bien. » Vous devez embrasser vos doutes. Vous devez continuer à questionner les faits. Vous devez, c'est très bien de ne pas avoir de certitude. Les certitudes, c'est pour les bigots. Vous, au moins, vous avez l'esprit ouvert. Vous ne catégorisez pas les choses. Vous êtes, embrassez vos doutes. Bravo, c'est bien. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des réponses, c'est d'avoir les bonnes questions. Ce n'est pas ce que Jésus leur dit. Il leur dit « bande d'imbéciles ». Alors, je exagère un peu, il est plus poli que moi, mais, verset 25, il leur dit « homme sans intelligence ». Ça revient au même, non, on est d'accord ? Mais ça passe mieux. Homme sans intelligence. Croire en Dieu, avoir la foi en Jésus-Christ, c'est intelligent. C'est pas de l'obscurantisme. C'est pas de trouver une béquille sur laquelle on va s'appuyer alors qu'on sait qu'elle est fausse. Souvent, et notamment pour les jeunes, pour les étudiants, il y a un corps enseignant qui, dans son grand ensemble, malheureusement en Occident, est contre la foi. Ils vous mettent la pression de croire que si vous croyez en Jésus, vous avez la foi en Dieu, vous êtes un attardé intellectuel. Si vous n'embrassez pas sans y réfléchir la doctrine de l'évolution, par exemple, vous êtes un imbécile, vous êtes un attardé. Il y a cette pression. Jésus nous dit, si nous ne croyons pas en lui, nous sommes des hommes sans intelligence. Et puis il ajoute quelque chose, il dit, non seulement ça ne va pas dans votre intellect, vous comprenez mal les choses, mais vous avez un cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Pardon. Le cœur. Il y a une expression que j'aime bien qui dit on ne peut pas voir Dieu physiquement avec les yeux de notre vision, de notre vue physique, mais on peut le voir avec les yeux du cœur. Jésus est présent, Jésus est ressuscité, il est vivant, il est au milieu de nous. On ne le voit pas, mais on peut le voir avec les yeux du cœur. Et souvent, bien souvent, les gens qui rejettent Dieu prétendent que c'est pour des raisons intellectuelles, alors qu'en fait c'est pour des raisons dans leur cœur, c'est pour des raisons morales, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir à rendre des comptes à quelqu'un. Et le problème, il n'est pas dans le cerveau, le problème, il est dans le cœur. Et puis il explique, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Avant la couronne, il fallait qu'il y ait la croix. Et ça, c'était difficile pour les Juifs de l'époque de le comprendre, même si Jésus leur avait dit plusieurs fois. Dans l'Ancien Testament, il est question d'un Messie triomphant, mais aussi d'un Messie souffrant. Dans Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 53, c'était quelque chose qui était à la disposition des disciples, c'était l'Ancien Testament. Qui a cru à notre prédication ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Et il parle du Messie à venir. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Donc c'est une prophétie sur la façon dont Jésus va être traité. Verset 4, « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il est allé à la croix pour nos péchés, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple ? On a mis son tombeau parmi les méchants, et sa tombe avec le riche, prophéties qui ont été réalisées à la lettre, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et puis on pourrait continuer, cette magnifique prophétie d'Ésaïe 53 décrit la souffrance, le Messie souffrant. Mais eux, ils ne retenaient que le Messie triomphant. Il y a d'autres passages, notamment aussi dans Ésaïe, où on voit la puissance de Dieu dans le Messie qui revient, qui juge la terre. Ils écoutaient ce qu'ils voulaient entendre. L'histoire du Messie qui souffrait, ça, c'était pas glorieux, ça, c'était pas encourageant. Eux, ils voulaient un Messie triomphant qui les libère de l'occupation romaine. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais il est mort et on n'a rien vu depuis 3 jours. Puis, verset 27, « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Je disais ce matin, si vous pouvez trouver le MP3 ou la cassette de cette étude biblique par Jésus à ses deux disciples, je suis preneur. Ça devait être l'étude biblique la plus fantastique de l'histoire. le Messie racontant tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament. Il est dit qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le mot qui est utilisé pour expliquer, c'est le mot qui, pour ceux qui connaîtraient le mot théologique d'herméneutique, c'est la science de l'interprétation, mais ça veut dire expliquer en suivant le texte de très près. C'est suivre le texte, c'est pas prendre des libertés et parler d'Eddie Mitchell, mais c'est suivre ce qui est dit et l'expliciter. Ce mot est utilisé seulement dans un autre endroit, Actes 9, 36, et il veut dire traduction. C'est lorsqu'il est dit que Tabitha se traduit par Dorcas, cette femme de Jaffa qui était tellement bonne avec tout le monde. Et donc, il prenait le texte de l'Ancien Testament et montrait comment ça s'appliquait à lui. Et on n'a pas l'étude biblique, on n'a pas le synopsis, mais on peut imaginer que, connaissant la Bible ou l'étudiant, qu'il a pu leur montrer dans la Genèse le Dieu créateur. Il est cet agent créateur. Dans l'Exode, il est l'agneau pascal. Dans le livre des Nombres, il est élevé tel le serpent de bronze pour notre guérison. Dans le Deutéronome, c'est lui notre vrai prophète. Dans Josué, c'est le général de notre salut. Dans les Juges, il est le juge qui nous libère. Ruth, il est notre proche parent qui nous rachète et qui nous épouse. Dans Luc, ça c'est pour après, il est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Dans Hébreu, il est le grand prêtre intercesseur. Toute la Bible parle de Jésus. C'est une façon passionnante de lire la Bible. Il y avait ce livre qui a été traduit en français par « Où est Charlie ?» En anglais, c'était « Where is Waldo ?» où on avait un petit personnage qui était caché au milieu d'un grand dessin, et le but, c'était pour les enfants, c'était passionnant, c'était de regarder, d'essayer de trouver Waldo alias Charlie. Vous pouvez faire la même chose. « Where is Jesus ?» Où est Jésus dans le passage que je lis ? Alors, c'est pas nécessairement à tous les coups, mais au moins tous les livres de la Bible. Et on imagine que lorsqu'il est dit qu'il expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait, il n'a pas fait ça de façon exhaustive. Sinon, il sera encore sur la route d'Emmaüs. Et donc, ils n'avaient pas compris que Jésus devait souffrir, et il leur explique que toute la parole de Dieu parlait de Jésus. On a parlé du village d'Emmaüs. En fait, le mot en hébreu veut dire mule, comme faire avoir une tête de mule, pas vouloir reconnaître les choses ou ne pas être docile devant les évidences. Vous avez entendu parler, si je vous dis Emmaüs, vous vous dites « Ah, mais c'est là que j'ai acheté mon canapé. » Ça, c'est parce que comment s'appelait-il déjà ? Le père. Voilà, l'abbé Pierre. Voilà, je sais. Vous suivez, c'est bien. J'avais oublié. L'abbé Pierre avait décidé d'utiliser ce titre, ce nom pour son association, parce que c'était un peu l'association de la deuxième chance. C'était pour ceux qui étaient désespérés, il y avait encore de l'espoir. C'était pour cela qu'il a nommé son association Emmaüs. Donc il y a un lien entre tout ça. Ils sont là, donc Jésus leur parle. Jésus est un bon enseignant, il leur a posé des questions pour susciter un besoin de parler et de connaître un peu où ils en étaient. Cette croix qui devait précéder la couronne, c'est quelque chose d'un peu répugnant. Je crois que souvent à Pâques, je partage que quand j'étais gosse, je fréquentais l'église catholique. Je n'avais pas une foi vraiment vivante en Jésus-Christ. J'espérais toujours qu'au dernier moment, l'histoire allait changer. Que Jésus allait faire venir des légions d'anges, mais année après année, c'était toujours la même tristesse de voir qu'en fait, non, il perdait. C'est bien plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça qu'il priait si cette coupe peut passer mes lèvres, autrement dit, si on pouvait sauver l'humanité sans que j'aie à être séparé de toi et à passer par la croix, alors ce serait formidable. Mais il a dit, mais pas ma volonté, ta volonté soit faite, Père. Il est là avec eux. On peut remarquer qu'après sa résurrection, il aurait pu choisir d'apparaître dans le temple de Jérusalem, devant toute la foule. Mais Jésus s'intéresse aux gens simples, il s'intéresse à vous, il s'intéresse à moi. Il est venu leur parler, il est venu cheminer avec eux, entamer un dialogue. Et si vous êtes venu à lui, il vous a aussi invité à cheminer avec lui. Dans la Genèse, il est dit que Dieu cheminait, marchait dans la fraîcheur du matin, dans le paradis de la soirée. Il y a cet aspect de familiarité simple. Il n'y a pas besoin d'habits religieux. Aujourd'hui, j'ai mis une cravate. C'est aussi religieux que vous me verrez, parce que c'est un grand jour. Et que certains peuvent penser que si le pasteur n'a pas de cravate, c'est pas un vrai pasteur. Peu importe. Jésus est là, il marche avec eux, il les amène, il leur rappelle la parole. La façon dont on connaît les choses de Dieu, c'est par la parole. La parole qui a été révélée par le Saint-Esprit, qui est retraduite à nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il parle de lui, ils le diront au verset 32, il commence à se sentir bien. Leur cœur brûle en eux. Alors ce n'est pas une brûlure comme on a des brûlures d'estomac, je crois que c'est le fait d'être réconforté, d'être encouragé, d'avoir quelque chose de joyeux au fond de soi. Je partageais aussi ce matin que Blaise Pascal, notre grand savant chrétien du XVIIe siècle, il a une expérience aussi de feu. Ce qu'il a appelé sa nuit de feu, le 23 novembre 1654, il a eu ce qu'il a appelé sa nuit de feu, la nuit où il s'est converti. Il avait déjà 31 ans, il ne lui restait plus que 8 années à vivre, mais il a eu cette rencontre avec Dieu, il a transcrit quelques notes sur un bout de papier. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ, ton Dieu sera mon Dieu. Joie, plus de joie, Jésus-Christ. Il a vécu quelque chose de très fort, il a eu cette rencontre avec Jésus-Christ, et pour en garder le souvenir, il avait fait une première écriture sur un bout de papier, il en a fait une copie, et il gardait ses copies dans la doublure de son manteau. Lorsqu'il changeait de manteau, après être passé chez H&M, il redécoupait le papier et le mettait dans sa doublure. Et il n'en parlait pas plus que ça, c'est à sa mort que son fils, son gendre, a vu ces documents. On a une copie de ce document à la Bibliothèque nationale à Paris. Lorsqu'on marche avec Jésus-Christ, lorsqu'on confesse nos péchés, lorsqu'on est restauré dans la relation, on se sent bien. Amen. Il y a cette chaleur dans le cœur. Et du coup, lorsque 26 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Jésus est un gentleman. Il ne s'impose pas à nous. Il pourrait, il aurait toute autorité, mais il veut que ce soit nous qui l'acceptions, qui le recevions. Et il se sent tellement bien avec cet étranger qui leur parle de la Bible de façon si pleine de connaissances et de sagesse, qui fait sens. Il le reterre avec insistance. Ça veut dire qu'il dit non, tu t'en vas pas. Reste avec nous car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin, alors il entra pour rester avec eux. Il va dîner avec eux. Apocalypse. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Si vous lui ouvrez la porte, il l'ouvrira, il rentrera et il dînera avec vous. Il aura cette relation intime. Mangez ensemble. C'est un signe d'intimité, d'amitié. Jésus veut manger avec vous. Pendant qu'il était à table, verset 30, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors on ne sait pas exactement pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont reconnu? On voit peut-être la façon dont il a pris un peu autorité sur la réunion. Il est invité, c'est lui qui fait la prière, c'est lui qui prend le pain, normalement c'est le maître de maison, ça aurait dû être le rôle de Clopas, mais il le fait sans que ce soit perçu comme une intrusion. Si on lui laisse la place, Jésus va être à l'aise et c'est lui qui va diriger votre vie. C'est lui qui va vous faire grandir. C'est lui qui va être là pour vous réconforter. C'est lui qui va être là pour vous mettre au défi. Alors, peut-être que lorsqu'il a pris le pain, ils ont pu voir que ses mains étaient percées. Ou peut-être c'est la façon dont il a couper le pain, il faut vous rappeler qu'il n'avait pas participé à la Sainte Cène. Il faisait partie pas du cercle des réduits, ils étaient dans l'ensemble des disciples de l'époque. Mais toujours est-il qu'il y a un déclic. Alors c'est peut-être Dieu qui avait retenu le fait qu'il le voit. Mais là, il le voit. Et avant de voir Jésus-Christ physiquement, il faut le voir avec votre cœur. Et là, ils étaient au point où leur cœur était réchauffé. Ils avaient la foi dans le cœur. Et nous, la Bible nous dit, la seule façon de plaire à Dieu, c'est la foi. La foi, ça veut dire faire confiance. Ça veut dire baser sur les révélations qui nous ont été faites, baser sur notre intelligence. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse lui faire confiance, pour qu'on puisse croire en lui. Maintenant, si notre cœur est rebelle, on ne va pas pouvoir l'accepter dans notre cœur. Notre cœur ne va pas brûler en nous. Et ce qui est bien aussi, c'est que leur cœur brûlait alors qu'ils parlaient ensemble, ils étaient ensemble. J'aime bien les groupes de maison, parce qu'on a, c'est plus interactif, ou les études bibliques, parce que l'un a une idée, parle de quelque chose, l'autre a une autre idée, et en fait, nos cœurs se réchauffent quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de sa part dans notre vie, ce qu'il fait, comment... Et on peut aller vers lui avec des prières, des sujets de remerciement, des sujets d'inquiétude. Et donc, ils s'aperçoivent d'un coup que celui qui a marché avec eux tout ce temps, qui leur a expliqué la Bible, c'était Jésus. Et avant qu'ils aient le temps de réagir, il a disparu. On sait que le corps de Jésus, après la résurrection, avait des capacités de passer à travers des murs. On ne sait pas comment ça s'est passé, là, ce n'est pas décrit. Ça aussi, on dit, oh, c'est de la bêtise. En fait, j'aime bien rappeler que notre corps, c'est du vide qui tourne très vite. On est composé d'atomes. Si on réduisait nos corps en enlevant tous les espaces qu'il y a entre les particules de matière dans notre corps, on serait un grain de poussière. Et quand on croit que quelque chose s'oppose à quelque chose, c'est pas la matière qui s'oppose, ce sont les champs électriques, les champs. Et donc le fait que Jésus, qui a créé le monde, il puisse à un moment donné annuler des champs magnétiques ou des champs électromagnétiques ou ce que vous voulez, il peut agir sur la matière au plus profond, ça devrait pas nous surprendre. Et là, il se lève et il retourne à Jérusalem. Là, ils sont sortis de leur dépression. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, ils ont... Pourquoi on peut dire qu'ils sont sortis de leur dépression ? C'est parce que il faisait nuit et ils avaient encore 12 kilomètres à faire. Et à l'époque, c'était pas sûr de faire... C'était pas... Il pouvait y avoir des brigands, des bêtes, c'était pas la voie rapide. Mais ils sont prêts à le faire tellement ils sont remplis de joie. Et là, quand ils arrivent, c'est les autres qui leur disent « Hé, le Seigneur est réellement ressuscité. Waouh ! Il est apparu à Pierre, à Simon. » Alors ils disent « Ah ben, nous, il a fait 12 kilomètres avec nous. Il nous a tout expliqué, on a tout compris. » Et puis ils expliquaient aussi comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. À ce moment-là, quelque chose s'était passé, on n'est pas sûr, mais il y avait eu cette révélation qui les avait convaincus au plus profond d'eux-mêmes. Nous, on va pas voir les mains de Jésus rompre le pain, on va prendre la Sainte Cène, mais juste avant, je veux dire que on peut s'identifier à ces pèlerins. On n'est pas sur la route d'Emmaüs, nécessairement, mais on est sur la route de la vie. Et on peut désespérer des circonstances dans nos vies, que ce soit financière, santé, perte d'un être cher, ou pire encore, une accumulation de ces choses. Mais à chacune de ces épreuves, il y a une opportunité que Dieu nous donne pour le voir. On doit laisser Dieu nous ouvrir les yeux. Leurs yeux s'ouvrir. C'est pas eux qui ont essayé d'un seul coup de voir. C'est Dieu qui va ouvrir nos yeux. Nous, notre responsabilité, c'est d'inviter Dieu comme il l'avait laissé leur parler, puis après venir à la maison. Abandonner nos attentes, dans le sens où si les choses ne tournent pas comme on voulait qu'elles tournent, ça ne doit pas nous permettre de remettre en cause la vérité et l'amour de Dieu. Il fallait qu'ils voient la perspective de Dieu en revenant dans la Bible. Le fait qu'il souffre, qu'il soit mis à mort, c'était pour le bien de l'humanité, c'était pour le salut de l'homme. Et puis, il faut faire confiance au timing de Dieu. On a tendance à lui demander des choses, à les vouloir tout de suite. la spiritualité, la maturité plutôt spirituelle, c'est pas instantané. Il faut marcher avec lui. Ça prend du temps. Et on peut s'en remettre à lui, lui faire confiance. Il est fidèle. Amen. Et comme les deux disciples, vous n'êtes pas seul, vous ne voyagez pas seul sur la route de la vie. Dieu est avec vous. Est-ce que vous êtes prêts à le voir à l'œuvre ? Amen. Amen.